Radio Okapi.
Près de 20 morts, bilan d'un accident de circulation cette semaine dans le territoire de Mitwaba, dans le Haut-Katanga. Le camion, avec à son bord passagers et marchandises, a fait un tonneau. La surcharge ainsi que l'ivresse au volant seraient les causes de l'accident, le troisième en un mois à Mitwaba, disent des sources sur place. Les Mbole et les Lingola ainsi que d'autres communautés de la province de la Tchopo qui étaient en conflit acceptent d'enterrer la hache de guerre. La signature de cet acte d'engagement a eu lieu hier jeudi à la fin des travaux du Forum pour la paix, la réconciliation et le développement de la province de la Tchopo initié par le président congolais Félix Tshisekedi. L'invité du journal s'appelle Sele Kabasela. Il est le directeur exécutif adjoint de l'organisation Dikudilenga au Kassai Oriental. Il va parler du projet de promotion de la sécurité alimentaire PROSA mis en place avec le programme alimentaire mondial PAM et Equity BCDC. Bonjour à tous. Au micro, Noëlla Luzitu Kabambi. Drame dans le territoire de Mitwaba, province du Haut-Katanga. Nous venons de l'apprendre. Environ 20 personnes sont mortes dans un accident de circulation survenu le mercredi dans l'après-midi à 19 km de Mitwaba centre. Les victimes étaient à bord d'un camion transportant aussi des marchandises. Partie de Lubumbashi, elle se rendait à Malembankulu dans les territoires du Haut-Lomami. D'autres détails avec Patrice Kishimba, élu provincial de Mitwaba, joint par Jean Gandou.
Un véhicule transportait plus de 40 tonnes de sacs de ciment en partance pour Malembankulu. Il y avait également des passagers à bord. Le chauffeur a perdu contrôle du véhicule et a connu un tonneau. Plusieurs pertes en vie humaine, de blessés ou rescapés. Certains sont internés donc à l'hôpital général de référence de Mitwaba où ils n'ont pas assez de médicaments pour la prise en charge. Des difficultés majeures d'évacuer ainsi ce rescapé, faute d'ambulance à la zone de santé de Mitwaba. Je venais de changer avec l'administrateur des territoires en charge de finances. Il me parle de 19 morts, dont 9 hommes, 6 femmes et 4 enfants. Sur les 4 enfants, il y a 2 filles, 2 garçons. Il y a également 8 blessés. Jusque-là, il n'y a pas d'assistance. Néanmoins, nous sommes dans le pourparler avec le dirigeant de la territoriale au niveau local et surtout avec l'exécutif du Haut-Katanga pour voir dans la mesure du possible comment faire inhumer ces victimes le plus tôt possible. La cause est les surcharges. Certains disent aussi de l'ivresse au volant.
L'accident de mercredi est le troisième qu'enregistre le territoire de Mitwaba en l'espace d'un mois, rapportent les sources locales. En Ituri, plus de 55 000 personnes sont affectées par les inondations dues à la crue du lac Albert entre août et novembre 2024. Ces chiffres sont rendus publics ce vendredi par le service provincial de la protection civile. Selon ce service, des centaines de maisons d'habitation, des écoles et des milliers d'hectares de champs ont été détruits par les eaux du lac Albert, ce qui accentue la vulnérabilité de plusieurs communautés locales. Martial Kizabiamungo.
Les chefferies de Wagongo dans les territoires de Maagi, de Baïmabamiwaki dans les territoires de Djogo et de Walindoubindi dans les territoires du Romo sont les plus touchés par cette catastrophe naturelle. Selon les services provinciaux de la protection civile, ces inondations sont dues à la montée des eaux du lac Albert à la suite des fortes pluies qui s'abattent régulièrement dans ces zones à cette période. Conséquence, des milliers de personnes dont leurs maisons ont été détruites vivent dans des conditions déplorables, des fois sans abri. Cette situation est également à la base de la non-scolarisation des centaines d'enfants à la suite de l'envahissement de leurs écoles par les eaux du lac. Les services de la protection civile ajoutent que ces inondations ont détruit des vastes étendues de champs des paysans, ce qui a accentué davantage la famine dans la région. Ces services demandent au gouvernement et ses partenaires de procéder à l'évaluation de la situation en vue de prendre des mesures de prévention et proposer des réponses durables à ces menaces. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, la pluie torrentielle qui s'est abattue sur le territoire de Beni hier jeudi a causé de nombreux dégâts humains et matériels. Dans la chefferie de Bachou, 13 écoliers ont été foudroyés, de même qu'un enfant dans la commune de Mangina qui en est malheureusement décédé. Des maisons ont également été endommagées. La société civile locale lance un appel d'urgence pour la réfection de ces habitations. Guylaine Kassassia pour les détails.
Au total, 13 écoles de l'école primaire Masulukwe de Kanyunga ont été foudroyées pendant cette pluie torrentielle. Selon Gérard Kassere Kangesera, directeur de l'école, les victimes, dont cette fille, tout en classe élémentaire, ont rapidement été transférées dans une structure sanitaire locale pour recevoir les soins appropriés. Ce matin, leur état de santé est rassurant, précise Gérard Kassere Kangesera, qui lance également un appel d'urgence pour la mise en place des paratonnerres dans cette école. Par ailleurs, dans la commune de Mangina, située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Beni, une mère et son bébé de 3 ans ont également été foudroyés par la foudre. Selon la société civile locale, l'enfant est décédé sur place, tandis que sa mère poursuit les soins au centre de santé de référence de Mangina. En plus de ces drames humains, plus d'une dizaine de maisons ont perdu leur toiture. Les occupants ont passé la nuit dans des maisons d'accueil. La société civile de Mangina lance un appel pour obtenir une aide afin de réparer ses habitations. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Kapi.
Les diverses communautés de la province de la Tchopo en général, et spécialement les Mbole et les Lengola, enterrent la hache de guerre. Ils ont en effet signé hier jeudi un acte d'engagement au terme des travaux du Forum pour la paix, la réconciliation et le développement de la province de la Tchopo. Ces assises, initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, tenues du 17 au 19 décembre courant par le ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, en collaboration avec le Fonarev. C'était en présence de plusieurs personnalités politiques, administratives, coutumières, religieuses, ainsi que des organisations de la société civile. Un reportage de Jacques Moukonkole.
Nous nous engageons dans la voie de la paix à sensibiliser dès aujourd'hui nos communautés respectives à la culture de la paix et de la cohabitation pacifique.
Sébastien Yemikanga Wakanga et Gilbert Sabouni, respectivement représentants des communautés Mbole et Lengola, ont signé cet acte d'engagement devant l'assistance. Ils se sont serrés la main avant de s'embrasser. Le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, donne le sens de ce document.
Cet accord constitue un document de rappel et de prise de conscience. Il matérialise l'objectif principal de vouloir vivre ensemble.
Plusieurs résolutions ont été prises par les quatre commissions instituées par ce forum. Le facilitateur de la commission paix et sécurité, Patrick Matata, en donne quelques-unes.
Les communautés ont pris l'engagement de préparer une cérémonie de réconciliation d'ici janvier 2025. Elles ont demandé au gouvernement de prendre en charge pendant ce temps les déplacés qui vivent dans les camps.
Réagissant à cet accord, le député provincial Dr Aimé Eyane ne se fait pas de doute. Les deux communautés ont effectivement fumé le calumet de la paix.
En tout cas, les gens se sont parlé ouvertement et je crois qu'on peut avoir ce sentiment-là, que les gens ne sont plus intéressés par la guerre.
Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Le gouverneur de la Tchopo enjoint toutes les parties au respect scrupuleux de leurs engagements. Paulin Lendongolia promet de traduire les récalcitrants devant la justice. Hausse vertigineuse des prix des produits agricoles à Bandundouville, dont le maïs et le manioc, surtout en cette période festive. Le prix d'un sac de manioc est passé de 60 à 90 000, voire 100 000 francs congolais, et celui de maïs qui coûtait 120 000 francs congolais revient aujourd'hui à 180 000, voire 200 000 francs congolais. Conséquence, une mesurette communément appelée écolo de maïs est passée de 1 200 à 2 500, voire 3 000 francs congolais. Selon les vendeuses rencontrées au marché par notre reporter, cette flambée de prix est due à la période pluvieuse et à la dégradation des routes, ainsi qu'à l'insécurité. Aquamout, les détails avec Irène Bomalzolo.
Cette hausse des prix des manioc et des maïs est observée dans tous les points de vente de la ville de Bandundu. Certaines vendeuses indiquent que cette situation est due à la rareté de ces produits causée par la dégradation des routes des dessertes agricoles, surtout en cette période pluvieuse. D'autres encore attribuent cette flambée des prix à l'insécurité causée actuellement par la milice Mobondo dans les plateaux de Bateke à Kwamout, qui souvent alimente la ville de Bandundu en ces denrées. Cette hausse des prix a un impact négatif sur les paniers de la ménagère, comme le témoigne Titi Bintou que nous avons croisé au marché central de Mampouya, situé dans la commune de Disasi. Elle se lamente en ces termes.
Vraiment, ça fait mal, ce qui est vrai. C'est même prix avec Kinshasa. En tout cas, nous souffrons aussi à Bandundu. Donc, les prix sont augmentés. Le poisson, le foufou, le maïs, les prix sont augmentés. Ça bouge bidier à la maison. Donc, tu peux faire les provisions de 10 bicolos. Maintenant, on ne peut pas encore acheter les 10 bicolos. Comme maintenant, j'achète 2 bicolos seulement.
Il sied de noter qu'à Bandunduville, les prix de plusieurs autres produits agricoles ont également connu la majoration, entre autres les arachides, les légumes et autres. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Lutte contre les maladies d'origine alimentaire au Maniema, les jeunes engagés pour la réalisation des objectifs de développement durable, Gérod, sensibilisent la communauté. Leur message porte sur les bonnes pratiques d'hygiène pour se préserver des maladies d'origine alimentaire. Hier jeudi, les jeunes de cette plateforme, initiée par le PNUD, étaient dans différents marchés de Kindu pour mener leur mission de sensibilisation. Florence Kizalunga.
Partie du marché central de Kindu, ces jeunes munis des mégaphones et quelques affiches se rendent dans chaque pavillon. Ils expliquent à la population l'importance de connaître les bonnes pratiques d'hygiène. Objectif, c'est protéger contre différentes maladies. Ribin Sadiki est leur président.
Nous avons décidé de pouvoir sensibiliser dans le marché de Kindu, tout simplement parce que, étant donné que nous sommes des jeunes qui œuvrent pour le développement de nos communautés, nous avons trouvé que c'était important de pouvoir mener une campagne de sensibilisation dans le marché afin de pouvoir appeler à nos mamans, vendeuses, et même les acheteurs sur les bonnes pratiques d'hygiène. Parce que nous avons constaté que certainement, ils contribuent significativement au développement et à l'économie de la ville de Kindu. Mais à un certain moment, certaines pratiques hygiéniques qui leur manquent contribuent d'une manière ou d'une autre à certaines maladies d'origine alimentaire. Est-ce comme ça que nous avons trouvé que c'était totalement important de pouvoir les voir afin de les rappeler que non, il serait évident de pouvoir connaître certaines pratiques hygiéniques afin de nous préserver contre les maladies d'origine alimentaire.
Conscient du danger, les vendeurs qui souvent exposent à l'air libre les aliments remercie ces jeunes.
Nous disons vraiment merci pour cette sensibilisation. Quand on n'éprouvait pas nos aliments, on vendait à l'air libre.
À part le marché central de Kindu, ces jeunes se sont aussi rendus au marché Elila avec le même objectif. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
À Kinshasa, les bourgmestres, les présidents des conseils communaux et les commandants des commissariats urbains de la police sont appelés, chacun dans son domaine, à assumer pleinement ses responsabilités pour que Kinshasa retrouve son lustre d'antan. Cet appel, le gouverneur de la ville l'a lancé mercredi au cours d'une rencontre avec ses différents responsables. Daniel Bumba a relevé à cette occasion différents points à améliorer à la base. Il a aussi remis à chaque commune une enveloppe de 20 000 dollars américains de frais de fonctionnement. Babel Pongo Massimango.
La situation chaotique que nous connaissons actuellement dans la ville n'est pas une fatalité, mais un défi que nous pouvons relever ensemble. Daniel Bumba, qui le dit, a notamment fustigé le laxisme et l'immobilisme de ses collaborateurs communaux dans la lutte contre l'insalubrité, la pollution sonore, les marchés pirates et l'occupation anarchique des emprises publiques. Il les a appelés à se mobiliser à la base pour la réussite du programme Kinshasa Ezobonga, en organisant notamment du nettoyage de rues, d'entretien systématique des caniveaux. Le gouverneur a aussi déploré le non des pour jusqu'à ce jour les plans de développement local demandés à ces autorités communales depuis 2 mois.
Vous conviendrez avec moi que Kinshasa n'est pas assaini. La responsabilité de nous tous, nous d'abord en tant que dirigeants, on sait que nous devons mettre en place, intégrer aussi la population, la décentralisation, pour le développement à la base. Si au niveau local, nous ne sommes pas très alignés dans tout ce que nous sommes en train de faire, ce sera comme si nous construisions un château sur du sable.
Le bourgmestre promet de faire mieux. C'est le cas de celui de Massina qui affirme avoir déjà un plan d'action à mener dans sa commune. Joseph Chitou.
On a déjà un programme qu'on a en train d'exécuter. Cette situation ne vient que nous compléter à ce que nous sommes en train de faire déjà.
Beaucoup reste à faire pour assainir Kinshasa. Le chemin est ardu, mais avec la volonté et la responsabilité de tous, nous pouvons transformer Kinshasa en un exemple pour toute la nation, a insisté Daniel Bumba.
Et puis, poursuite de notre série sur l'assainissement et la gestion des déchets, au Nord Kivu, la mairie de Goma s'implique activement dans les activités d'assainissement et de gestion des immondices pour lutter contre l'insalubrité dans la ville. En collaboration avec ses partenaires privés, le service d'assainissement de la mairie coordonne les travaux réguliers de balayage, de curage des caniveaux et de transformation des déchets. Le responsable du dit service reconnaît des efforts consentis jusqu'ici, mais il évoque aussi parmi les défis
majeur à relever, l'insuffisance des décharges publiques ainsi que les moyens financiers pour mener efficacement ce travail. Sifamagoro nous en parle.
D'après Maître Georges Moutachi, coordonnateur du service d'assainissement de la ville de Goma, la mairie travaille avec plusieurs organisations locales du domaine réunies en plateforme. Il cite comme exemple l'entreprise A3 qui s'occupe du vidage des toilettes publiques en transformant cette matière en savon notamment. Il y a également l'entreprise Kunafazi qui organise les ramassages de bouteilles plastiques et autres immondices pour les recycler en pavés ou en engrais et bien d'autres. Comme défi majeur, Grégoire Moutachi parle de l'accroissement de la ville de Goma avec la présence des milliers de déplacés de guerre. Les deux dépotoirs publics dont disposait la ville peu avant ne sont plus accessibles. C'est notamment au quartier Mugunga qui héberge actuellement des camps de déplacés, mais aussi la zone de Kilimanyoka qui est actuellement une zone opérationnelle et difficile d'accès, précise-t-il. Autre défi évoqué, l'insuffisance des engins appropriés et les moyens pour assainir efficacement la ville. Goma, Sifamagoro, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au moins 8 personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau des migrants au large de la Grèce, annonce faite ce vendredi par les gardes-côtes. La vedette qui transportait les migrants a chaviré alors qu'elle tentait de prendre la fuite. 18 personnes ont pu être secourues.
L'invité.
Au Kassai-Oriental, l'organisation Dikudilenga ODD, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial PAM et Equity BCDC, a offert dimanche dernier à l'hôtel Métropole de Mbujimaï un dîner d'affaires aux responsables de plusieurs couches de la population dans le cadre du projet de promotion de la sécurité alimentaire PROSA. Ce face-à-face a permis à quelques producteurs de maïs dans les trois territoires de la province de tisser des relations directes avec des potentiels acheteurs de leurs produits des champs. Sélé Kabasela est l'invité de ce journal. Il est le directeur exécutif adjoint de l'organisation Dikudilenga. Il s'entretient ici avec Esther Ndalafina.
Bonjour, Monsieur Sélé Kabasela. Pourquoi avoir organisé vraiment cette activité dénommée dîner d'affaires?
Alors, le dîner d'affaires, comme son nom l'indique, c'est une activité qui a pour objectif de rassembler les producteurs, les commerçants, les autorités du pays afin de permettre une symbiose dans le cadre du PROSA, le programme de sécurité alimentaire que nous sommes en train de mettre sur terrain avec l'apport du PAM. Donc il était tout à fait normal que, après toutes les formations qu'on a eu à donner sur terrain, que nous puissions réunir toutes ces personnes autour d'un dîner afin d'échanger, voir dans quelle mesure est-ce que les choses peuvent aller encore plus loin que la production traditionnelle qu'on a toujours eue.
Vous avez parlé de plus de 180 bénéficiaires du projet. Quels ont été les critères de sélection?
Alors, les critères de sélection de ces 187 bénéficiaires, c'était, il y a eu d'abord une enquête au départ pour pouvoir déterminer les organisations paysannes regroupées autour de 4 structures. Alors avec ces 4 structures qui nous ont proposé leurs membres, ben on s'est lancé, c'était ça le critère de sélection primordial. Mais il faut relever qu'en termes d'accompagnement, on est allé au-delà de 187 parce que le projet a tellement bien évolué qu'il y a eu des personnes qui n'étaient pas bénéficiaires directs mais qui ont adhéré au projet. Donc aujourd'hui, on peut parler de plus de 600-700 bénéficiaires sur le projet.
Vous demandez aux bénéficiaires de faire de grandes productions et aussi longtemps qu'il y a un problème d'évacuation dans la province. Est-ce que les responsables du projet ont pensé à trouver des solutions à cette situation?
Ben c'est justement pour ça qu'ils sont là tous, c'est-à-dire les décideurs politiques, les transporteurs, les producteurs et les commerçants. C'est comme ça qu'on a mis tout ce beau monde ensemble afin de pouvoir cogiter autour de cette problématique et de trouver des solutions.
Comment se fera le suivi par rapport à la production, par rapport à la vente, l'évacuation, tout ce qui tourne autour du projet? Comment se fera le suivi?
Alors, il y a l'ODD qui est là et qui va s'occuper un peu de ce genre d'activité pour pouvoir faire le suivi déjà à la production. Et avec ce dîner d'affaires que nous avons ici, il y a des accords qui sont signés, qui seront signés entre les producteurs et les consommateurs et les commerçants. Et en fonction de ça, au lieu qu'une personne puisse sortir avec sa production de son village pour ramener, il y aura des coopératives qui seront mises en place. Et autour de ces coopératives, il y aura maintenant un système de transport. Donc ce ne sera plus une production par ménage, mais sera une production par groupe. Donc c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que ce problème-là ne va plus concerner une seule personne ou un seul ménage, mais ça va concerner un groupe de ménages.
La banque Equity BCDC a été mise à contribution pour octroyer le crédit. C'était à quelle hauteur?
Alors, le crédit, il n'y a pas d'auteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un montant fixé par rapport. C'est chaque structure propose son business plan et discute avec Equity BCDC par rapport à la faisabilité de ce business plan. Donc, il n'y a pas un montant fixé. Soit votre capacité de production, c'est sur base de cette capacité de production que vous allez demander un crédit. Mais il n'y a pas un montant figé pour dire que non, c'est tel montant pour tout le monde, non. C'est au cas par cas que ça se passe.
Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on n'est pas en mesure de rembourser le crédit?
Alors, qu'est-ce qui arrive? Logiquement, je suppose que Equity, après avoir travaillé sur le projet, ils ont mis en place des garde-fous hein, qui leur permettent de sécuriser quand même le crédit. Mais il y a quelque chose de nouveau par rapport à ce projet, c'est qu'on ne rembourse plus au mois, c'est-à-dire on rembourse à la saison, c'est-à-dire sur une année, le bénéficiaire du crédit va rembourser deux fois seulement. Vous voyez, donc ça change de beaucoup. Parce qu'à l'époque, dans le système traditionnel, on pouvait prendre un crédit et directement, un mois après, vous êtes obligé de rembourser. Mais là, on vous dit non, c'est saison par saison. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Quoi.
Monsieur Sélé Kabasélé, merci.
Merci beaucoup, madame.
Et c'est la fin de ce journal présenté par Noëlla Luzitu. À la mise en onde, c'était Polydor Basunga, dans une coordination de Jacques-Yves Molima et sous la supervision de Alain Irung. Merci à vous tous de nous avoir suivis.